Donc c'est maintenant qu'on échange à propos des luttes qui s'organisent autour des centres de santé sexuelle, dans la Drôme et puis ailleurs, hein, finalement. L'échange va être animé par Marguerite, Suzanne et Héron, ici présentes, qui sont toutes les trois membres du collectif de lutte contre la fermeture des 7 centres de santé sexuelle. Vous avez sans doute entendu parler de ça, c'était l'année dernière dans la Drôme. 7 centres de santé sexuelle qui ont été fermés, 7 sur 17, c'est ça ? Principalement en zone rurale et dans les quartiers populaires. Voilà, donc Marguerite, Suzanne, Héron, vous avez et vous continuez à animer cette lutte qui a commencé donc en février de l'année dernière. Et on voulait, avant de parler de comment elle s'est organisée, quelles sont les perspectives, alors qu'il nous semble quand même qu'on a perdu. Il y a quand même plein d'outils qui ont été développés dont on pourra parler. On voulait revenir sur la base, c'est-à-dire à quoi ça sert un centre de santé sexuelle et qui vient là et qui les accueille. Tu commences, Suzanne ? Ouais.
Donc les centres de santé sexuelle, il y en a de différentes formes. En fait, il y en existe trois formes. Et ceux qui ont été fermés l'année dernière, c'est ceux qui étaient en gestion directe avec le département. En fait, donc il y a des gestions directes avec les départements, des centres de santé sexuelle hospitaliers et des centres de santé sexuelle qui sont planning familiaux, qui sont associations, en fait. Voilà. Donc, c'était pour bien distinguer les trois formes, en fait. Donc, dans la Drôme, il y avait effectivement ces trois formes et il n'en reste plus que deux. Il n'y a plus que les centres de santé sexuelle hospitaliers et les centres de santé sexuelle du planning familial. Voilà. Donc, ils sont financés par les départements. Et ça, c'est, ça date pas de, enfin ça date d'il y a longtemps. C'était la loi Neuwirth, et cette loi, en fait, elle est passée à peu près dans les années 70-75 plutôt, voilà. En même temps, un peu que l'IVG, que voilà. Et en fait, pourquoi ils ont été créés, ces autres centres, les plannings familiaux existaient déjà et en fait ils pouvaient déjà les adhérents des plannings familiaux, puisque c'était des associations, pouvaient, les adhérents, les adhérentes pouvaient venir chercher de la contraception, pouvaient venir parler avec des personnes, rencontrer du personnel médical, sage-femme, médecin, voilà. Et donc, quand la loi a dit ben, il en faut de partout, sur tout le territoire, des centres de santé sexuelle, à l'époque, ça s'appelait centre de planification et d'éducation familiale. Donc, quand l'État a dit ben, il faut en mettre de partout, ils se sont appuyés sur l'existant. Donc, l'existant, c'était déjà les plannings familiaux qui existaient. Voilà. Donc, un planning familial historique qui existe donc, depuis 70 ans, c'est par exemple le planning de Grenoble. Voilà. Certains sont un peu moins vieux, mais voilà. Et donc ça, c'est pour dire que ceux qui ont été créés après, c'était dans les centres hospitaliers ou dans des gestions directes comme les départements, quoi. Voilà. Donc là où il y en avait pas, ils en ont créé, mais pas des associatifs. Ils ont créé les deux autres formes, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils coexistent sur les territoires, partout en France, des centres de santé sexuelle gérés de différentes manières. Ouais. Les missions des centres de santé sexuelle, c'est d'accueillir toutes les personnes, qu'elles soient majeures ou mineures. Sans condition de on n'a pas besoin d'avoir une carte vitale pour venir au centre de santé sexuelle. Et on n'a pas besoin non plus de décliner son identité. Donc parfois ça permet à des gens de pouvoir venir sans devoir donner ni un prénom ni un nom. Et surtout pas de carte vitale parce que parfois. On n'a pas envie ni de le dire à son conjoint ou sa conjointe, ni à ses parents. Voilà. Donc là, il n'y a aucune trace qui sera visible, quoi. Et donc les missions, dans les centres de santé sexuelle, il y a des conseillères conjugales, il y a des sages-femmes et il y a principalement ça et parfois des médecins. Mais ce n'est pas une obligation, en fait. Et les missions, c'est faire de la prévention, bien sûr. Donc, les conseillères, nous, on fait tout ce qui est prévention dans les milieux scolaires. Et puis, on propose des temps d'écoute qui sont gratuits et confidentiels. Donc ça, bah, c'est assez précieux parce qu'en fait, il y a beaucoup de lieux, par exemple pour les mineurs, où il faut l'autorisation des parents pour venir être écoutés, avoir des temps d'écoute, comme dans les centres médico-psychologiques. C'est gratuit aussi, mais il faut avoir l'autorisation des parents, alors que dans les centres de santé sexuelle, ce n'est pas le cas. Voilà. Il y a ça qui est précieux. Et puis, pour tout le monde, bah, la gratuité, c'est souvent précieux aussi. voilà. Et puis, jusqu'à présent, bah, c'était aussi la proximité, en fait, puisqu'il y en avait quand même... donc, sur le territoire de la Drôme, il y en avait un, par exemple, dans le Vercors, à Saint-Jean-en-Royans. Il y en avait un en bas, à Die. Voilà, donc, il y en avait sept comme ça qui ont fermé. Et voilà. Donc, maintenant, il faut aller faire plus de kilomètres pour avoir le même droit. Et sinon, bah, on s'occupe de tout ce qui est les infections sexuellement transmissibles, de bien sûr des interruptions volontaires de grossesse, des violences conjugales, ouais, voilà. Les temps d'écoute, c'est autour de la sexualité, mais voilà, ça peut être de la parentalité aussi, ça peut être donc, comme je disais tout à l'heure, de la prévention, venir parler de son corps, venir parler des questions qu'on peut se poser, voilà. Et puis autour de son couple aussi, venir parler de ça, si on veut, et des sexualités, bien sûr. Et donc les sages-femmes et les médecins vont faire tout ce qui est donc IVG, infection sexuellement transmissible. Là, je sais plus.
Bah, je sais pas, peut-être pour commencer, parce que du coup, on se connaît pas, et puis, je sais pas, on sait pas à quel point vous êtes au courant de tout ça, et du coup, peut-être juste recueillir un peu déjà votre rapport peut-être à la santé sexuelle, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, histoire qu'après, on puisse aussi, voilà, après, on va vous raconter la lutte et tout ça, mais aussi savoir peut-être ce que vous avez, ouais. Pour avoir un peu une idée de, je sais pas, ce qui vous intéresse là-dedans aussi, quoi. Comme ça, on peut aussi rebondir sur vos propres expériences ou interrogations, besoins.
Si vous voulez vous exprimer sur ce que c'est pour vous la santé sexuelle, ça sera peut-être un peu moins dans un sens, non ?
Oui ?
C'est la cata parce que j'ai la bouche pleine. C'est l'heure du repas.
Bon appétit.
Merci. Moi, je savais pas que j'allais pouvoir faire ça et que le planning familial proposait ça. Mais cette année, j'ai participé à un groupe de parole organisé par le planning familial de Grenoble pour des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'était incroyable. De février à juin, on a eu 6 séances gratuites, anonymes. Enfin, j'ai eu aucun compte à rendre, animées par deux professionnels du planning qui avaient une capacité à nous faire rentrer dans les sujets très profonds, mais en parlant avec des mots très simples. Contrairement à nos milieux alterno, queer et compagnie, on utilise des mots hyper précis où on se perd des fois dans du vocabulaire qui sert à rien. Et je crois que c'est un volet de la santé sexuelle que je ne voyais pas avant. Mais en fait, parler des violences qu'on a vécues et trouver des voies de l'exprimer, de guérison, ça fait partie pour moi de tout ça. Voilà.
Merci beaucoup pour ton témoignage. Et effectivement, peut-être que ça met en valeur un aspect de la santé sexuelle qui est souvent minimisé. En fait, historiquement, comme Suzanne l'a dit, c'était vraiment lié à la contraception, parce qu'à la base, c'était vraiment les luttes féministes des années 70 et le fait d'avoir accès à la contraception, à l'avortement. Mais en fait, les enjeux autour de la santé sexuelle, effectivement, aujourd'hui, ils ont beaucoup bougé. Et en fait, fermer des centres de santé sexuelle par rapport à... Parce que l'argument, en gros, du département, je m'avance un peu sur la suite de ce qu'on va vous raconter... Mais en gros, l'argument du département, c'était, en fait, il y a déjà de la santé, on va juste réorganiser. Mais en fait, la santé sexuelle a une spécificité, vraiment, c'est que c'est un des rares endroits dans notre société où on prend en compte l'individu en entier, son expérience en entier, et le fait qu'il ait des expériences aussi personnelles qui vont affecter sa santé, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, encore plus en milieu rural. Et du coup, l'idée de ces centres, justement, c'était, oui, d'amener la possibilité de consulter un médecin, une sage-femme, mais aussi de pouvoir être écouté. Et en fait, ça devrait être le rôle de la santé en général, mais souvent, c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on, je pense, il y a eu autant de gens qui se sont mobilisés autour de cette lutte. C'est que, enfin, on lutte de manière générale contre les déserts médicaux, c'est une réalité dans beaucoup de territoires ruraux. Mais je pense que le symbole autour de la santé sexuelle, c'est aussi que ça parle de bah, nos intimités, de qui on est. Et voilà, du coup, c'était juste pour rajouter ça, qui est peut-être un peu moins formel, mais parce que moi, du coup, j'étais plutôt usagère des centres de santé sexuelle et je trouve que c'est important de rappeler ces éléments.
Héron, d'ailleurs, tu avais d'autres choses à ajouter sur l'histoire, la chronologie de la planification familiale.
Ouais, bah, en fait, en vrai, Suzanne a dit beaucoup de choses déjà, mais en gros, restituer le fait que cette lutte, c'est la suite de luttes qui existent déjà, et en fait, qui sont même à l'origine des centres de santé sexuelle, c'est ce que je disais à l'instant. Globalement, en fait, ces questions-là, bah, c'est les questions qui s'adressent aux personnes qui vivent souvent des expériences de domination, en fait, de rapport de pouvoir dans notre société, qui sont peu pris en compte. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu des mobilisations massives dans les années 70 que ces enjeux-là sont devenus vraiment centrales, avec le slogan, par exemple, le privé et politique, qu'on connaît toujours bien aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte, ça fait des années qu'on sait que ce genre de questionnement, c'est des allers-retours, en fait. Il y a des luttes qui permettent de faire avancer des droits, et puis les droits sont en permanence contre... Enfin, en fait, ça coûte de l'argent, et l'État, quand il est dans un mode néolibéral, d'austérité, etc., ça coûte de l'argent. Rappelons que c'est 0,01% du budget du département, hein, l'équivalent de ce qu'ils ont fermé. Donc c'est vraiment une goutte d'eau, quoi. Mais globalement, c'est en fait c'est donner de l'importance à des besoins qui sont souvent quand même très peu pris en considération dans notre société. Et du coup, c'était juste pour peut-être faire le lien aussi avec ce que Marguerite, tu vas pouvoir nous raconter sur la lutte, mais je pense que c'est important de rappeler que nous, on a mené une lutte spécifique autour de ces fermetures, mais qu'en fait, cette lutte, elle se transmet de génération en génération, et qu'on a eu des personnes de tout âge aussi qui ont lutté avec nous. Et personnellement, j'ai été très étonnée quand on tractait au marché. Il y avait beaucoup de personnes assez, vraiment âgées, d'ailleurs de tout genre, qui nous confiaient, on sentait qu'il y avait une totale adhésion avec la lutte, en fait. Alors que je trouve qu'on a vite tendance à se dire les générations avant, les boomers et tout, et même après. Et bon, clairement, tout le monde ne vote pas comme il faudrait voter, si jamais il fallait voter. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était intéressant de sentir qu'il y avait une continuité de lutte entre ces générations-là, en fait, qui aujourd'hui sont âgées, qui ont plus ces besoins de santé sexuelle, mais qui continuent de soutenir les personnes aujourd'hui qui sont effectivement peut-être plus jeunes ou plus, enfin, qui ont d'autres problématiques, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'avortement, la contraception, ça peut sembler plus une évidence, quoique on sait très bien que ça l'est pas, en fait. Et voilà, c'était juste pour rappeler cette dimension historique ou généalogie un peu des luttes féministes et queer.
Marguerite, tu vas enchaîner sur la chronologie de cette lutte de l'année dernière.
C'est ça, je vais pas être exhaustive, évidemment, il y a eu tellement de rebondissements, mais c'est juste pour cadrer un petit peu les événements, enfin que vous sachiez un petit peu par quoi on est passé mois après mois. En gros, on a appris en début février 2025 que le département envisageait de fermer ses centres et de réduire les subventions du planning de 20%. Et des hôpitaux, voilà. Et en fait, juste après cette annonce, enfin quelques jours seulement après, une pétition a été lancée par le planning de la Drôme et elle a très vite voilà, été diffusée. Et puis, dans chacune des communes où étaient ces centres de santé sexuelle, le bruit a commencé à vraiment se répandre. Et petit à petit, des mobilisations citoyennes et sociales se sont organisées. Nous, toutes les trois, on habite à Die, donc on a évidemment bougé des choses plus dans cette commune-là. Ça s'est traduit donc par tout un tas de marches, mais on se déplaçait aussi de commune en commune. On a réussi, dès le mois de mars, à mettre à peu près 500 personnes dans la rue à Die, qui est une commune de 5000 habitants. On a eu beaucoup d'appui aussi de relais chez l'opposition politique à Madame Mouton, qu'on n'a pas nommé encore pour l'instant, mais c'était la présidente du département de la Drôme qui a pris cette décision. Donc. Et puis, en fait, on a eu un élan de soutien vraiment impressionnant. Enfin, il y a eu beaucoup d'initiatives de ciné-débats, de stands, de marches. Enfin, ça a pris, quoi. Beaucoup de personnes se sont impliquées à leur hauteur, quoi. Et puis, notre ligne de mire, c'était clairement la fin du mois d'avril, parce que c'était à ce moment-là que le département allait voter définitivement son budget. Et donc, on était aussi très nombreuses à nous déplacer au département pour être présentes pendant ce vote et pour pouvoir gentiment insulter les élus. Enfin, bon, leur dire que c'était vraiment des gros couillons de voter ce budget tel quel. En tout cas, on a eu les boules. Enfin, ça a été dur parce que on pensait que justement toute cette mobilisation qui a pris des formes très très bon. Après, ça restait très légal. Hein, on va pas se mentir, mais on se disait qu'on allait gagner, quoi. On se disait, ok, ils ont capté. On est des déserts médicaux déjà, en fait. Pourquoi vous voulez en plus fermer les maigres trucs qui restent ouverts où on peut accéder en fait à du soin. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me disais, ils vont quand même pas faire ça. Et en fait, si. Et donc, il a fallu derrière se creuser la tête sur, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, comment on continue à se mobiliser, comment on continue aussi à médiatiser, parce qu'on a eu quand même une belle couverture médiatique de cette centre de santé sexuelle, de cette fermeture. On a eu notamment un grand article très bien sur Mediapart, on a eu une chronique tôt le matin sur France Inter, puis un reporter France Culture qui a fait quelque chose de beaucoup plus complet. Bref, bon, après, je pense que c'était la moindre des choses qu'on en parle un petit peu. Et puis, tout ça pour dire que on a débouché sur une mobilisation un peu réplicable, facilement réplicable dans tout le département. C'est ce que vous voyez là sur cette magnifique exposition. Donc une sorte de réflexe, enfin en tout cas pas de réflexe, je dis n'importe quoi. Enfin, l'idée c'était de faire du stop, voilà. Et on a appelé ça nos droits en stop et on essayait d'encourager un maximum de personnes à visibiliser le fait que maintenant, ils allaient devoir faire 1 heure à 2 heures pour accéder à des soins, pour aller au prochain planning familial, sachant que on n'est pas tous égaux devant la mobilité. Il y a plein de thématiques en termes de transport dans les territoires ruraux. Je vous apprends rien.
Et vous disiez un truc intéressant tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue au préalable, c'est que vous aviez en face de vous la détermination de Marie-Pierre Mouton du conseil départemental, que c'était vraiment assez saisissant de voir à quel point elle s'était emparée de la question, voyant la lutte vraiment s'organiser dans le Royan, à Die, à Cray.
En fait, on a su un peu les deux choses opposées, à la fois que d'une certaine manière ça leur faisait peur, et notamment que je pense qu'elles s'attendaient vraiment pas du tout à ce qu'il y ait une manif spécifique avec même si c'est des populations rurales, donc évidemment c'est des chiffres tout petits. Mais mine de rien, 10% d'une ville qui se mobilise pour un service public, c'est énorme, en fait. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait des lycéens, le fait qu'il y ait des personnes de tout âge, ça faisait parler, quoi. Et du coup, on a assez vite su que, voilà, bah, ça les dérangeait, en fait. Ça les dérangeait que les gens puissent identifier que c'était pas juste, comme elle disait, une réorganisation. Parce que eux, leur argument, c'était ça. C'était une réorganisation. Et ça permet de mutualiser les services, comme on sait si bien faire, pour économiser de l'argent, en fait. C'était purement un argument budgétaire. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, évidemment, nous, derrière, ce qu'on pointait, c'est que bah, quand c'est 0,01% d'un budget et que toute la population est en train de s'exprimer, de contester, qu'il y a l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes... un nombre énorme de maires aussi, de villages, de villes de la région. En fait, on a eu un nombre de moissons de soutien, même de toute la France, en fait. Enfin, on avait le soutien de la direction du planning familial. Bon, évidemment, c'est pas impartial. Mais je veux dire, l'ordre des médecins et l'ordre des sages-femmes, par exemple, moi, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était une grosse surprise. Et en fait, eux, c'était pas forcément pour des raisons... seulement idéologique qu'ils soutenaient ça. C'était pas forcément parce que c'était des personnes hyper féministes, même s'il y en a. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ces besoins-là, c'est des besoins tellement fondamentaux que si on abandonne en fait ces services de proximité, on se retrouve en fait avec... déjà qu'on a un désert médical un peu dans toutes ces régions, un éloignement des services, et donc une santé qui est déjà, en fait, en général, dans des assez mauvaises conditions, c'est-à-dire qu'on a des conditions de prise en charge qui sont compliquées. En plus, il y a un rapport du Sénat, par exemple, d'il y a 2 ans, qu'on ne peut pourtant pas accuser de gauchisme, qui expliquait que 50% des féminicides, par exemple, avaient lieu en milieu rural, alors qu'on sait que seulement 30% des femmes vivent en milieu rural. Donc, toutes ces dimensions-là, en fait... on essayait de pointer le fait que c'était même pas pour des raisons militantes qu'il fallait, à la limite, les défendre, mais même pour des raisons purement... en fait, il y avait des raisons même néolibérales, d'une certaine manière, de le défendre, quoi. Et en face, en fait, on avait vraiment un mur, une personne qui était vraiment, mais d'une détermination et butée comme jamais, quoi. Et c'était en plus une personne qui... Donc déjà, qui nous envoyait la chargée de l'égalité femmes-hommes en faisant croire que oui, mais moi, je suis engagée sur l'égalité. Donc en fait, aussi, je trouve que c'est un peu le signal de notre époque, dans le sens où, en fait, les questions féministes, c'est difficile aujourd'hui de dire « je suis anti-féministe ». Donc il y a une sorte de discours à la surface qui semble, voilà, oui, mais bien sûr, nous, on est pour... il faut qu'on prenne en charge les besoins des femmes, de manière d'ailleurs très essentialiste et très peu queer. Et par contre, de l'autre côté, on n'a aucun geste qui va dans ce sens-là, et même au contraire, en fait, concrètement, des pratiques hyper rétrogrades, hyper... de destruction, en fait. Des rares services qui déjà prennent en charge, et là, je parle des femmes, mais pour les personnes queer, c'est pire. Parce qu'en fait... à la limite, on peut se dire, bah, oui, ok, aujourd'hui, il y a une conscience sur les violences faites aux femmes, etc. Mais en fait, des personnes queer dans le milieu de la santé aujourd'hui, c'est des expériences, en général, de éventuellement retraumatisation, enfin, de passer par ces systèmes-là, qui sont souvent des systèmes... pardon, je parle trop vite. Ça va ? On sait très bien que le système médical, c'est aussi un système d'oppression pour certaines personnes. Et donc, avoir des lieux où on a un minimum de formation sur ces questions, c'est hyper fondamental, quoi. Donc, ouais, voilà, c'était ce que je voulais dire.
Et c'est pour cette raison-là que cette lutte qu'on croyait toutes et tous qu'elle allait être victorieuse, finalement, on peut avoir l'impression d'avoir perdu, mais... Justement, si on détaille un petit peu tous les outils qui ont été déployés et les rencontres qui ont été faites, on peut se dire qu'il en reste quelque chose et que qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'on a comme perspective ? Suzanne, tu veux ? Non ?
sur autre chose, mais c'est pas
grave. Vas-y, si tu veux vous aider.
Non, je disais, oui, enfin, vraiment, ces lieux, c'est aussi pour les jeunes et pour les femmes. Et c'est vraiment la question qu'on s'est posée aussi quand elle a voulu fermer. C'est vraiment de se dire, ben voilà, encore un lieu accessible aux jeunes et aux femmes qui ferme, quoi. Voilà. Et c'est aussi ça qui nous a vraiment posé question, quoi.
Oui, peut-être dire aussi que, en fait, ce que cette lutte a mis en évidence, c'est que déjà, le droit tel qu'il existe, il est déjà oppressif, en fait. C'est-à-dire que les centres de santé sexuelle, en fait, c'est une obligation légale depuis les années 80. Et donc, en fait, c'est calculé sur le nombre de populations. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 100 000 personnes entre 15 et 50 ans. Et donc, si vous avez ce bassin de population, ensuite, vous avez le droit à 33 demi-journées dans ce département pour ces 100 000 personnes de consultation médicale. Donc déjà, c'est pas énorme. Et surtout, c'est calculé sur la population entre 15 et 50 ans. Là où ça cloche, évidemment, on comprend l'héritage historique, parce que c'était pour la contraception, et qu'évidemment, bah, c'est à peu près, grosso merdo, l'âge de la fertilité. Mais en réalité, aujourd'hui, les centres de santé sexuelle, ils ont ils ont des missions en fait qui sont tellement plus larges que la question de la planification familiale, comme on l'appelait. Là, on fête les 70 ans du planning, donc en fait, c'est un monument, le planning familial français. Et pourquoi je disais tout ça? Parce que ouais, désolé.
Non, mais parce que, comme tu dis, ça a aussi été le résultat d'un long processus de pouvoir envoyer tout un tas de personnes, notamment des lycéens, lycéennes, et leur dire, bah, en début d'année, en troisième ou même avant, je ne sais plus, on fait visiter à tous les étudiants ce centre de santé sexuelle et voilà, vous pouvez venir sans rendez-vous, sans carte vitale, sans prévenir vos parents. Personne ne vous jugera si vous venez poser vos questions ici. Et ça, je pense que ça a été un truc qu'on prenait pour acquis, en fait. Et une fois de plus, le département de la Drôme, ils nous ont dit, bah, en fait, non, rien n'est acquis.
On peut rappeler quand même que l'argument qui a été brandi par les adjointes de Mouton, donc cette présidente du conseil départemental de la Drôme, c'était, mais vous méprisez les jeunes, en fait. Les jeunes, ils ont des smartphones, hein. Et on était là, waouh, ok. Genre, le niveau de. Pour vous, genre, l'éducation sexuelle, ça va être ChatGPT, quoi. D'où aussi nos affiches que vous avez peut-être vues là-bas dans l'expo. Où, du coup, on se foutait un peu de la gueule quand même. Parce que voilà, on sait très bien qu'il y a des lobbies actuellement qui sont extrêmement puissants, qui financent en fait le fait que, non seulement sur les réseaux, mais même dans nos territoires, etc., des initiatives anti-avortement existent, des initiatives contre les transitions de genre. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur une ligne de crête, quoi, entre ces éléments-là qui sont quand même passés dans le droit français, donc on est censé les respecter, mais en même temps des offensives idéologiques extrêmement violentes contre ça. Et je crois que je peux finir ce que je disais tout à l'heure, ce que je me suis rappelé. C'est que, en fait, on a même à un moment envisagé de contester le droit, parce qu'en fait, du coup, ce droit des centres de santé sexuelle est basé, comme je vous disais, sur ces 100 000 personnes entre 15 et 50 ans. Et donc l'idée qu'on avait, c'était aussi de transformer le droit, en fait, et de demander que les personnes qui ont moins de 15 ans, les personnes qui ont plus de 50 ans, soient aussi comprises, en fait, dans ces besoins-là. Parce que, contrairement à plein de stéréotypes, bah, la vie sexuelle, elle commence pas à 15 ans et elle s'arrête pas à 50 ans. Et puis que, juste, la santé, en fait, de nos corps, et notamment aujourd'hui, je pense que, à la fois du fait du vieillissement de la population et à la fois parce qu'en fait, on sait notamment que les questions d'inceste ou les questions de violence sexuelle sur les enfants, elles sont extrêmement importantes et que donc c'est un des lieux qui peut accueillir ces personnes mineures, en fait. Et ça, c'est vraiment... Enfin, en fait, quand on y pense, c'est un peu révolutionnaire parce que, en fait, actuellement, du coup, maintenant que c'est fermé, ces personnes-là sont censées prendre le bus sans l'autorisation de leurs parents, et aller dans un centre où ils ne vont pas pouvoir accéder à cette écoute sans une carte vitale, ou peut-être sans l'autorisation de leurs parents. Donc voilà.
moi, je voulais compléter pour répondre en partie à ta question. La situation aujourd'hui, en fait, le bâtiment qui accueillait le CSS, le centre de santé sexuelle, est vacant. Enfin, je crois qu'il se passe plus grand chose, complètement vide. Il y a une permanence à l'hôpital, un jour par mois. Mais ça n'a plus du tout le même rayonnement que pouvait avoir le CSS avant, parce que c'est principalement des gens qui sont à l'hôpital pour une raison X ou Y, qui sont invités à consulter la conseillère familiale et conjugale de l'hôpital, mais c'est pas du tout tout un chacun qui est amené à se rendre à ces consultations. On a eu un petit espoir, souvenez-vous, lorsque Mouton est devenue sénatrice, elle s'est fait remplacer par un homme, je sais plus son nom, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Bref, et cet homme-là, on a eu un petit espoir que peut-être il s'empare de la question et qu'il revienne sur les décisions foireuses de sa prédécesseuse. Que nenni, il est resté sur ce credo. Donc et depuis, on n'a pas eu de. L'opposition pourtant a été d'une aide assez incroyable. En travail, enfin, ils ont fait réellement un gros boulot pour nous alimenter notre campagne aussi, nous donner des chiffres, des rapports, tout un tas d'analyses auxquelles on n'aurait pas eu accès facilement sans LE. Mais ça n'a pas suffi. Et ça fait juste trop chier de se dire qu'il va falloir attendre une élection dans 2 ans pour potentiellement avoir un budget, pour potentiellement repartir sur... Et en fait, c'est une vision très, effectivement, légaliste de tout ça, étatiste. Mais le service public, là, c'est une porte de plus qui se ferme dans des territoires ruraux, et on sait que ça fait monter les fachos aussi, dans les votes, en tout cas. Et ce qui est vraiment... trop nul, c'est que tout le monde s'en fout en plus de ces élections. Enfin, les départementales, on ne sait pas souvent que ça a un effet direct dans notre quotidien, quoi. Et là, on l'a vu direct. Voilà.
Peut-être. Enfin, je sais pas. On pourrait peut-être parler. Enfin, peut-être aussi si vous avez des questions déjà pour aussi, voilà, nous relier aussi à vous, parce que du coup, là, on vous a beaucoup raconté ce que nous on a fait et. Et en fait, peut-être que vous, dans vos propres histoires, à la fois de territoire, de communauté personnelle, vous avez connu des choses comme ça. Et peut-être aussi réfléchir ensemble à... Il y a des luttes qui ne sont pas victorieuses en apparence, parce que, en fait, on n'arrive pas à faire renverser l'opinion. Enfin, l'opinion était avec nous, c'est sûr. Mais le politique, en fait. Enfin, en fait, il y a un moment quand les gens, ils tiennent le truc, et on sait très bien que depuis des années, on se fait tabasser en manif. Enfin, on sait très bien que les gens ne sont pas d'accord avec la politique qui est là. Et en même temps, elle continue à aller dans le sens du néolibéralisme. Et donc, peut-être réfléchir ensemble. Enfin, ça nous intéresse en tout cas d'avoir aussi vos points de vue sur ce qu'on fait des luttes quand elles n'ont pas toujours... marché entre guillemets, parce que nous on est assez persuadés que par ailleurs les liens qu'on a créés, les ressources militantes qu'on a pu mettre en place, la solidarité, l'identification de ce besoin en fait qui aujourd'hui va se transformer en une permanence de santé queer probablement une fois par mois ou deux fois par mois dans bénévole. Une des ouais. Mes bénévoles du coup dans une des villes mais c'est seulement une des 7 ville quoi ou village et c'est en territoire rural les autres et c'est aussi en territoire des quartiers populaires en fait et ces questions là on sait que c'est difficile parfois de les porter dans ces territoires là donc peut-être avoir aussi vos retours n'hésitez pas si vous avez des questions ou des expériences
des récits ou des perspectives même dans un autre champ de lutte hein, où on peut garder trace de nos liens créés pendant la lutte. Si quelqu'un veut s'exprimer.
Moi, je serais curieuse de savoir aussi si les gens avaient entendu parler de nos droits en stop, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu en entendre parler et qui avaient... justement, parce que On a lancé ça dans le Diwa en essayant...
Moi, c'était sur une perspective un peu de... Enfin, j'avais un peu deux idées, mais peut-être la première, déjà, c'est de me questionner sur qu'est-ce que, du coup, il est possible de faire sans l'État, sans le service public. Est-ce que c'est imaginable, déjà, de construire quelque chose, justement, en se détachant de cette espèce de budgétisation étatique, départementale, et de s'organiser entre nous? Avec forcément ça demande des sous, donc c'est peut-être des collectes ou je sais pas comment on peut s'y prendre. Et ensuite, enfin en fait je pense au centre communautaire de santé qui existe un peu à Toulouse notamment, beaucoup au Québec notamment aussi, et où en fait c'est quelque chose qui est directement construit par les citoyens citoyennes. Et est-ce que c'est quelque chose de potentiellement faisable? Et je crois que ça peut rejoindre un peu la deuxième partie de ma question, qui est aussi comment, entre guillemets, poser ce débat-là et cette lutte-là au niveau national. Je discutais de ça avec une pote qui bosse au planning familial à Rennes, en Bretagne, où c'est pas du tout les mêmes problématiques de fermeture et budgétaire. Enfin, c'est pas de la même ampleur, mais c'est la même problématique. Où ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'on va faire des trois quarts temps pour pouvoir garder tous les salariés, etc. Et du coup aussi, est-ce que c'est imaginable de poser cette question-là à un niveau plus global ouais.
Je commence rapidement, mais je pense que vous pourrez compléter. Sur une des planches, on a des députés qui ont fait nos droits en stop à l'Assemblée nationale. Notre députée de la circonscription de la Drôme, la troisième de la Drôme, c'est Marie Pochon. Elle s'est emparée vraiment de la question, elle a fait une question ouverte lors d'une séance question au gouvernement. Elle a vraiment joué le jeu aussi sur le plan numérique et médiatique. Et tout comme un autre député de Valence, je sais plus son nom, Paul Christophe. Enfin, on a eu des appuis, on a eu des personnes qui ont porté ça au niveau national. Après, à chaque fois, c'était la même chose. C'est que c'est de toute façon le budget d'un département dont il est question. Donc, en fait, c'est aux élections départementales qu'il faut que ça bouge, si on veut que ce budget bouge. Ça, c'était pour une partie de ta deuxième remarque. Et pour la première remarque, c'est hyper intéressant. Effectivement, on a vraiment creusé le sujet des centres de santé communautaires. On a rencontré notamment des personnes de Bron. Il y a eu quelque chose à côté de Lyon, ouais. Il y a eu un truc qui était assez incroyable, qui a été organisé à Die grâce à ce collectif et ces forces vives militantes formidables ici présentes. C'était une sorte de grande table ronde, enfin, je sais pas comment on peut appeler cet événement, mais où une agora où absolument toutes les strates politiques étaient là. C'est-à-dire que ça allait des toutes petites communes aux communes un peu plus grandes, à l'interco, au département, à la région et au niveau national. Et en fait, c'était hyper riche parce que c'est des gens qui touchent un peu à ces sujets, mais sans savoir ce que font les autres sur ça. Si tu veux compléter, en tout cas, le fait de les réunir tous, c'était très, très précieux.
Je pense que ce qui était particulièrement précieux pour moi, en tout cas, c'était... En gros, ce qui est intéressant sur les petites communes rurales ou quoi, c'est que c'est moins des dimensions politiciennes que vraiment des citoyens aussi citoyennes qui savent en fait aussi ce que c'est, pour le coup, ce qui sont pas du tout des professionnels de la politique. Donc déjà, je trouve c'est une force intéressante à mobiliser, parce qu'en fait, souvent on se dit que ouais, les élus locaux, c'est pas forcément. Enfin, moi j'avais des stéréotypes parfois très négatifs. Et du coup, c'était très intéressant quand même de voir comment ils nous ont vraiment accompagnés et soutenus. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant de cette rencontre, c'était quand même aussi qu'il y avait justement un collectif queer qui était en train de se constituer, qu'il y avait des personnes... Il y avait par exemple la présidente de l'Ordre des médecins de la Drôme. Et en fait, ça n'arrive jamais, en fait. De se rassembler autour d'une table et de dire, ok, en fait, nous, les personnes queer, c'est ça nos besoins. Les relais politiques qu'on a, c'est ça. Nous, en tant que médecins, nos besoins, c'est ça. Et je pense que ce moment-là, il a été vraiment très fort pour les gens parce qu'on était, voilà, on était 100 dans la salle et que d'un coup, ça semblait pas un truc de loin, quoi. Ça semblait pas juste quelque chose, effectivement, qui pourrait... paraître inaccessible, comme souvent quand on se dit l'Assemblée nationale, ça nous semble tellement genre ça n'existe pas en fait, enfin, c'est un délire quoi. Mais pour autant, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait essayé de convier des personnes du centre de santé communautaire de Bron. Et du coup, c'est des personnes qui ont pu aussi témoigner de leur expérience. Et en fait, un centre de santé communautaire, c'est une utopie super belle, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut créer... Il y a d'ailleurs eu un gros enthousiasme derrière et des gens qui se sont inscrits pour essayer de réfléchir à ça. Et en même temps, ce qui est compliqué dans notre monde, c'est que qui dit centre de santé communautaire ne dit pas pas de bureaucratie ni de gestion, quoi. C'est évidemment aussi passé par... souvent des subventions, souvent du travail bénévole, souvent des choses qui sont parfois assez complexes. Et c'est là où, effectivement, comme tu dis, bah, y a une tension, quoi. Nous, on s'est concentré sur le fait qu'il existait un service et qu'il fallait défendre ce service parce qu'il était mené par des personnes extrêmement compétentes, parce qu'il ne coûtait pas grand-chose et qu'on avait envie de le maintenir. Mais une autre stratégie aurait été de partir à l'inverse et de se dire « bah vas-y ». Mais on y a, depuis le début, de toute façon, on en discute, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on squatte ce local qui est vide, en fait, littéralement ? Et je pense que c'est aussi des endroits où on apprend collectivement à faire. Et voilà, on teste aussi des hypothèses. Et je pense qu'en tout cas, on n'a jamais autant parlé de santé sexuelle dans la Drôme. Et ça, c'est hyper intéressant, par exemple. Parce que du coup, je sais pas, moi, quand je suis arrivée, ça fait 5-6 ans que je suis sur le territoire, les questions autour des personnes queer, c'était pas forcément évident, quoi, de les apporter dans l'espace public. Et je pense que tout ça, c'est aussi des vagues, en fait, qui montent et qui descendent. Et pour répondre à ta question plus sur le plan national, je sais pas si... Suzanne, tu veux prendre la suite ?
Ouais, sur le plan national, le planning, par exemple, est très inquiet aussi. Ils ont eu des mauvaises nouvelles à la fin de l'année 2025. Disons qu'il y aurait sûrement dans les années à venir des baisses. En tout cas, ils sont attaqués par la voix de sa présidente, en fait. Qui... Donc, sinon, au niveau national.
Ouais, peut-être dire qu'il y a une offensive hyper forte. Ouais. Que là, on vient d'apprendre que dans le Vaucluse, ça va être la même chose. C'est-à-dire que la présidente du Vaucluse vient d'annoncer qu'il n'y aura plus de subventions au planning familial. Et donc, comme tu dis, ça nous pousse à inventer des choses, en fait. Nous, depuis le début, par exemple, on ne voulait pas faire une page Instagram parce qu'on se disait « non, c'est Instagram », et puis on n'a pas le temps, puis on était dans l'urgence. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on avait, pas forcément sur Insta, mais récolté... c'est tout un système après de pensée. C'est-à-dire vraiment arriver à fédérer tous les gens qui étaient avec nous, et il y en avait beaucoup. Et on en a perdu beaucoup sur le chemin parce que juste des trucs de communication de « Ah, toi, t'as pas de signal. Ah, toi, t'as pas de mail. Ah, toi, t'as pas de... » Voilà. Mais globalement, il y a des forces qui sont là. Et je pense qu'après, il y a plein de questions organisationnelles de comment est-ce qu'on fédère ces forces-là, quoi. Et ouais.
J'ai entendu parler récemment qu'il y avait d'autres associations qui se voulaient comme le planning familial, mais qui étaient d'autres bords politiques, notamment. Et j'ai entendu parler, je crois, ce terrain où vous avez des infos par rapport à ça.
C'est surtout sur l'éducation à la sexualité, effectivement, et sur aussi sur des blogs ou des sites.
Effectivement, il y a Pierre-Édouard Sterrin qui organise un réseau qui s'appelle Familia, avec un Y, c'est ça. Où, du coup, ils font semblant d'accueillir les personnes qui sont en détresse, soit de grossesse non désirée, et qui...
Pire. Et en fait, selon moi, ils font bien pire, c'est-à-dire qu'ils répondent aux mêmes appels d'offres que le planning familial en se présentant comme des associations compétentes sur les thématiques de santé sexuelle, etc. Et derrière, il y a des fois où ils emportent les missions. Et là, ça devient vraiment affolant. C'est-à-dire qu'on a des gens potentiellement anti-avortement, ce que nous, on est pour, bref, vous voyez, qui vont dans des écoles et qui vont derrière porter ces discours. Et c'est affolant. Et je pense que c'est évidemment un backlash. Et je pense que c'est évidemment le moment de défendre, d'essayer... Tout faire pour défendre nos droits, pour en acquérir de nouveaux et surtout pour ne pas se faire avoir par des groupes comme ça qui arrivent avec bien plus de moyens que nous et qui du coup nous devancent en termes justement de moyens organisationnels et financiers. Et c'est absolument dramatique, j'en ai entendu parler aussi.
pour rentrer à l'éducation nationale, souvent le planning familial a besoin d'un agrément. Et voire même les agréments des plannings sont remis en question dans certains départements, enfin, ou en certains établissements scolaires. Voilà, c'est compliqué, quoi.
Ouais, on sait. Enfin, moi, je sais pas, j'ai une copine qui bosse au planning familial de Marseille, par exemple, et les appels d'offres des Bouches-du-Rhône. Si le planning utilise l'écriture inclusive, en fait, il sait qu'il va pas avoir sa subvention, quoi. Donc, on en est là, quoi. Enfin, dans le niveau de d'infiltration, en fait, de ces questions idéologiques jusque dans des fonctionnaires de structures territoriales, etc. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi à penser, peut-être, enfin, moi c'est mon côté un peu historienne, mais c'est qu'en fait, la profession, elle s'appelle encore conseillère conjugale et familiale aujourd'hui. Et c'est un terme, en fait, qui a une histoire. Enfin, c'est des termes qui renvoient plutôt à un héritage d'une tradition, en fait, chrétienne, qui a accompagné aussi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu me contredis si. Voilà, mais c'est vraiment l'idée que c'est lié au mariage, c'est lié. Et en fait, c'est au couple. Et si on voit les argumentaires, par exemple, de Familia, qui est donc une de ces structures qui propose du conseil conjugal et familial, les arguments, c'est aujourd'hui, il y a une crise du logement en France parce qu'en fait, les gens, ils se séparent. Et du coup, il faut surtout ne pas laisser ces gens se séparer. Et donc, il faut du conseil conjugal et familial pour faire du couple hétérosexuel heureux, en fait, et procréateur. Et on voit bien que ces arguments-là, en fait, ils infusent quand même très fort. Et notamment, aujourd'hui, il existe évidemment des formations de conseillères conjugales et familiales dans des espaces militants, notamment le planning, qui forme chaque année des super conseillères et conseillers. Mais il existe aussi une formation à l'Institut catholique de Lyon. Et donc, en fait, c'est des vraies luttes idéologiques. Et c'est intéressant d'avoir ces... C'est pas nouveau, mais c'est quand même des réoffensives qui sont majeures, quoi, et qui s'inscrivent aussi dans des actualités, évidemment, tristement internationales, quoi.
Moi, je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait pour nous organiser, prendre en main aussi ces questions-là. En fait, on a eu évidemment énormément de débats et de discussions sur ce sujet. Et il y a un truc qui m'est resté en tête, c'est quelqu'un qui disait « Putain, moi, ça me fait chier. Je suis mal payée, je suis précaire, je paye des impôts. Et là, il faudrait que je mette aussi dans une caisse pour... alimenter une offre de soins à laquelle j'avais le droit avant, mais en fait c'est pas ok. Enfin, c'est pareil quand on te ferme ta gare ou la poste ou l'école. En fait, c'est ça aussi qui fait monter le vote d'extrême droite dans les territoires ruraux, c'est que les gens, putain, s'appauvrissent. On est dans un moment de l'histoire où il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Enfin, c'est délirant. Par contre, tout ce qui est TVA, tout ce qui est plein de choses, 10 millions de personnes. Mais tout ce que tu n'as pas le choix de la payer, la TVA. Enfin, tu vois, il y a toute cette réflexion de, en fait, je suis pauvre, j'ai le droit à normalement un accès à des services publics. Ça, c'est révoltant qu'on me les sucre. Alors que il y a plein d'autres choses qui continuent à être très bien financées dans les villes ou dans d'autres domaines de le budget de l'État, enfin genre l'armée, bref, ce genre de choses. Je trouve que c'est un argument intéressant parce que ça montre que il y a évidemment besoin de temps et d'argent et de compétences et d'organisation et de locaux et machin. Et en fait, si tu veux faire un centre de santé communautaire qui tienne vraiment debout, tu peux pas être trois, quoi. Il te faut des moyens et pas qu'un peu. Et du coup, c'était mes réflexions par rapport à ce qui t'a dit tout à l'heure.
Peut-être quand même mentionner comme perspective, parce qu'il y a quand même de l'espoir. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on peut finir avec d'autres questions. Mais peut-être quand même mentionner que finalement, c'est aussi parce que... Enfin, je pense que nous, on s'est focalisé sur ça et que jusqu'au bout, on a essayé de tenir notre truc.
Mais ça va peut-être revenir.
Et
hein.
Ça va peut-être revenir. Et on par ailleurs, on a démultiplié nos amis et nos luttes et nos compréhensions des ressources militantes autour de nous. Mais concrètement, c'est aussi pas exactement les mêmes personnes qui organisaient la Pride, mais du coup qui nous ont aussi amplifiés l'année dernière à la Pride d'Audi où il y avait plus de 1000 personnes et où du coup, ça a aussi porté. C'est des allers-retours aussi. Et au final, ce qu'il en ressort quand même de plus concret aujourd'hui, c'est effectivement une permanence qui est tenue par des personnes concernées, pour des personnes concernées. Et ce que je trouve génial, c'est que finalement, un jour, on s'est retrouvés dans un bureau à dire « Mais toi, tu représentes en fait les médecins du coin. Toi, tu représentes le collectif du coin. » Et en fait, d'habitude, jamais de la vie, on se parlerait. Et là, ça a permis aussi ça. Et de dire « Ah, mais vous êtes OK pour filer des locaux. Ah, mais vous êtes OK pour former les médecins. » Et en fait, ce genre d'espace c'est assez rare, quoi, je pense, ce genre d'espace où, en fait, on peut vraiment penser ensemble, y compris avec des intérêts divergents, parfois, mais des stratégies où on se dit, OK, en fait, on va investir cet espace et on va en faire quelque chose qui soit, qui soit le plus bénéficiaire, le bénéfice. Vous avez compris.
Bon, je crois qu'on peut dire que c'est OK. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bon appétit.